Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
Carrie? Carrie?
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties bouquins avec deux BD, Le Roi des Ribauds de Vincent Brujas et Ronan Touloa paru chez Aquileos, Hate, Chronique de la haine d'Adrian Smith disponible chez Glénat, Brian De Palma, Entretien de Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, ouvrage édité par Carlotta et complété par 6 DVD, à savoir Phantom of the Paradise, Fury, Pulsion, Blowout, Body Double et Scarface, Rebecca d'Alfred Hitchcock par Jean-Loup Bourget, et Les Vampires de Louis Feuillade par Benjamin Thomas, les deux premiers opus de la collection Contre-champ aux éditions Vendémiaire. Nous aurons d'ailleurs un échange avec Franck Laffont, directeur de cette nouvelle collection. Enfin, nous reviendrons sur les dernières parutions de chez Playlist Society avec le premier volume d'une nouvelle collection, Face B, constituée de livres d'entretien. Ce premier ouvrage est Frédéric Wiseman à l'écoute de Laura Freducci, Quentin Mével et Séverine Rocabois. Et nous conclurons avec Gigi Abrams ou l'éternel recommencement d'Erwan Desbois. Nous nous quitterons d'ailleurs sur quelques mots de Gigi Abrams, capté par Jean-Michel Montanari, alias Oh My Gorman. Merci à Livia Foraison, Mathilde Gibault et Benjamin Fogel pour leur aide sur cette émission. Pour causer bouquin aujourd'hui, je suis accompagné d'un pourfendeur de l'injustice qui sévit dans les rédactions d'histoire et images médiévales, him-mag.com, et deux des galeries, 2dgalerie.com. Je veux bien sûr parler du Chevalier Blanc, ou plutôt de William Blanc. Salut William.
Salut, salut.
Commençons par un miracle que l'on n'attendait plus, avec la réédition d'un pavé épuisé depuis 2001, consacré à l'un de nos réalisateurs fétiches, Brian De Palma. Donc le livre s'appelle « Brian De Palma, Entretien ». C'est un livre de Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud. Alors c'est édité par Carlotta. Ils mettent 6 DVD avec. Bon, c'est vrai que moi j'aurais préféré voir des Blu-ray à la limite. Tant qu'on est dans l'édition de luxe, autant faire les choses aller jusqu'au bout. Alors après, c'est un très bon choix parce que ça permet de balayer vraiment l'ensemble de la carrière de De Palma. Il y a Phantom of the Paradise, mon préféré de De Palma, donc Phantom of the Paradise. Il y a Blowout, qui est aussi un de mes préférés, mais qui est surtout là, pour le coup, je pense, d'un point de vue cinématographique, personnel, le meilleur film de De Palma. Il y a Fury, Pulsion, Body Double et Scarface, voilà, qui couvre bien tout le spectre du talent de De Palma. Alors, par rapport à l'édition de 2001, cette édition elle est plus complète puisque l'édition de 2001 s'arrêtait en fait avant Femme Fatale. Et là, donc cette édition, il y a toutes les précédents entretiens évidemment. Et puis on ajoute ceux sur Femme Fatale, Le Dahlia Noir, Redacted et Passion. Hein. Alors Passion, donc l'enchaînement est facile, hein, mais effectivement ça donne un bouquin passionnant. Voilà. Les entretiens sont passionnants. Pourquoi ? Parce qu'un peu à la manière du bouquin Hitchcock-Truffaut, en fait, hein, on est vraiment complètement dans la mise en scène. De Palma ne parle quasiment que de mise en scène. Ce qui est très intéressant, c'est que les entretiens, comme ils s'étalent sur plusieurs années, il y a une complicité qui s'installe en fait, entre les rédacteurs du livre, les intervieweurs, qui au départ, on sent bien que De Palma n'a pas trop envie de se livrer. Et puis petit à petit, il commence à parler de ses fêlures, dans sa vie, de ce qui a cloché, ce qui a fonctionné. Voilà. Et là, ça devient très, très intéressant. On a, par exemple, beaucoup d'infos sur son père, sur sa mère. C'est illustré de pas mal de photos. Et sa mère, en fait, était une sorte de madone superbe. Elle est très, très belle. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clichés de sa mère, parce que le bouquin est assez richement illustré. Et ça en dit long, moi, je trouve, sur l'aspect psychanalytique du travail de De Palma, cette relation avec cette mère, la façon dont les enfants ont été mis en concurrence entre eux, parce qu'ils ont tous eu des destins brillants, en fait, c'est ce qu'on apprend en lisant le bouquin, certains plus tragiques que d'autres dans la famille de Palma, à la limite, Brian de Palma, c'est celui qui a eu c'était le vilain petit canard de la famille, et en fin de compte, c'est celui qui a eu qui est resté l'artiste le plus connu, quoi, voilà. Il a plutôt une famille qui était très axé sur les mathématiques, les sciences. D'ailleurs, son père était médecin. D'ailleurs, son quotidien, on découvre quand il était enfant, c'était d'aller parfois aider son père au boulot, puis de tenir une jambe coupée ou un truc comme ça. Enfin bon, on comprend mieux beaucoup de choses en lisant ce livre. Hein. On découvre hein, vraiment plein de choses sur De Palma. C'est un bouquin vraiment énorme. Si vous êtes fan de De Palma, vous ne pouvez pas passer à côté de ce bouquin qui est un grand, grand livre. Moi, j'ai un seul petit regret sur le livre, mais c'est un désaccord avec les auteurs du livre. Hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent Les Incorruptibles comme un film mineur, comme pas un bon film, en fait. Hein, ils ne s'en cachent pas, hein, les auteurs du bouquin. Et du coup, il ne s'attarde pas beaucoup sur le film dans le bouquin, alors qu'il mérite, pour moi, c'est un très bon film de De Palma. Et ils adorent Mission to Mars, par exemple, que moi, je trouve mauvais. Hein. Je trouve vraiment que c'est un mauvais De Palma. Mais en fait, De Palma, après, c'est question de subjectivité, hein, évidemment. Hein. De Palma voit Mission to Mars comme un film très personnel. Donc, c'est très, très, très intéressant, du coup, ce qu'il développe sur Mission to Mars. Du coup, le livre m'a donné envie de revoir Mission to Mars. Ça, là, on sait qu'on est face à un bon bouquin. Et donc, c'est Brian De Palma, entretien avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud. C'est publié par Carlotta et c'est un livre, bon, bien sûr, pour tous les cinéphiles et pour tous les fans de De Palma, à posséder obligatoirement dans sa bibliothèque. Nous continuons ce Culture Prohibée spécial bouquin avec un cinéaste qu'on a souvent associé d'ailleurs à De Palma, c'est Alfred Hitchcock. Hein. Bien que De Palma n'ait pas été influencé que par Hitchcock, il ne soit pas qu'un cinéaste sous influence hitchcockienne. Il y a beaucoup de choses chez De Palma, c'est bien plus que ça. Ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui a été remis là, à l'honneur récemment, y compris par un coffret ultra-collector de chez Carlotta, ce sont les débuts de Hitchcock lorsqu'il est arrivé aux États-Unis où il a travaillé sous la férule du directeur David O. Selznick. Hein, et il a signé plusieurs films pour lui, hein, dont Rebecca. Et Rebecca, c'est le thème d'un ouvrage donc, qui s'appelle Rebecca d'Alfred Hitchcock, hein, un ouvrage de Jean-Loup Bourget, est paru dans la nouvelle collection de chez Vendémiaire, la collection Contre-champ, collection dirigée donc, par Franck Laffont. Alors le livre, c'est un livre analytique, jamais ennuyeux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la masturbation intellectuelle. Hein. Jean-Loup Bourget, de toute façon, a écrit nombre de livres sur le cinéma, c'est même un staccanoviste, on peut le dire. Hein. J'ai lu beaucoup de livres de lui, sur plein de sujets différents, beaucoup sur le cinéma hollywoodien. Et là, il construit une thèse qui est assez passionnante, hein, autour d'une question qui est « Qui est le véritable auteur du premier film états-unien d'Alfred Hitchcock, Rebecca ?» Alors, À la lecture de l'ouvrage, il apparaît qu'effectivement, ce film charnière dans la carrière du Britannique est plus le fruit d'une collaboration avec Davido Selznick et d'autres, même si malgré tout, Rebecca est aussi un film personnel pour Hitchcock, en particulier sur la figure de la femme fantôme qui va sublimer dans Vertigo sur Froide, et puis sur le personnage aussi d'Edith Van Hopper, qui incarne une vision très satirique de l'Amérique, quelque chose qui est très prégnant dans le cinéma d'Hitchcock. Toutes ces pistes-là sont abordées, bien d'autres encore par Jean-Loup Bourget, dans cet ouvrage qui est indispensable pour tous les amateurs du réalisateur londonien. Et ça s'appelle donc Rebecca d'Alfred Hitchcock. Et c'est un ouvrage de Jean-Loup Bourget aux éditions Vendémiaire dans la collection Contrechamp.
Close the drapes, Rebecca, keep our sins within. Close the drapes and we can be young again. Allow the candles to gutter out on their own. When my hands were sure, then I marched on. Memories caught in sugared snares and words that were not as profound as we'd hoped they would be. Your slender wrists grasp longingly, but a million fires have been banged since then. So pull close these bleach curtains and never again speak of the idiot son. We can survive. It's closer in darkness when cracks remain hidden and slow thoughts can run slowly. Fingers itch, it's there, you can take it. I won't resist. My voice is too hollow to voice a complaint. Who's to know when it's safe to leave this house again? Who's to know? Who's to know when it's safe to leave this house again? Who's to know?
Écoutez Culture Prohibée.
Close the drapes, Rebecca, keep our sins within.
Toujours dans la collection Contrechamp aux éditions Vendémiaire, Il y a le livre de Benjamin Thomas, hein, qui est donc le deuxième opus de cette collection, qui est consacré au Fantômas de Louis Feuillade. Alors dans ce livre, Benjamin Thomas revient sur la succession de tableaux en fait, qui est composée par Louis Feuillade, hein, sur sa science du montage et sur la modernité de sa mise en scène, hein, voire son côté avant-gardiste. Hein. D'ailleurs, de toute façon, Feuillade avait aussi grandement impressionné les surréalistes. Hein. Privilégiant donc l'obscurité, le contre-champ, le cinéma de Feuillade est vu là, à travers cet ouvrage un peu comme le précurseur de celui d'un autre maître du fantastique, hein, c'est Jacques Tourneur. Voilà. Alors le bouquin, c'est quand même celui que beaucoup de fans de Feuillade attendaient, dont moi, hein, et on espère donc que la suite de la collection Contrechamps sera aussi riche. Et pour nous faire une idée, nous allons de ce pas échanger avec son directeur, hein, de collection, le directeur de cette collection, pardon, et critique de cinéma émérite, Franck Laffont. Donc Franck Laffont tout de suite au micro de Culture Prohibée. Bonjour Franck Laffont.
Bonjour.
Alors Franck, on te connaît en tant que critique émérite, hein, quand même assez productif, hein, voilà. Et là, tu te retrouves donc directeur d'une collection aux éditions Vendémiaire, qui est la collection Contrechamps. Mais le pourquoi comment de cette collection ? Comment tu t'es retrouvé directeur de cette collection ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Eh bien, écoute, c'est un petit peu, j'allais dire pas un hasard, mais c'était sous l'impulsion du moment. Comme j'étais déjà en contact avec Vendémiaire pour le dictionnaire que j'avais publié peut-être 2 ans avant, j'ai eu l'idée, et l'envie surtout, de leur proposer une collection de monographies consacrées à des films. Et le projet a été accepté avec enthousiasme tout de suite, même si, bien entendu, il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place, pour que les auteurs soient recrutés, qu'ils écrivent, qu'on publie. Donc là, on a eu les premières sorties au mois de septembre 2017, mais le projet a vraiment vu le jour 2 ans et demi auparavant. Donc c'était vraiment une envie de proposer des études de films qui ne soient pas trop scolaires, c'est-à-dire de ne pas imposer une structure préétablie aux auteurs, de leur laisser une marge de manœuvre en la matière, sachant qu'en contrepartie, on a certaines exigences, à savoir commencer d'une manière bien précise, c'est-à-dire d'emblée de faire pénétrer le lecteur dans le livre et dans le film, simultanément, par un choix de scène, de plan, de dialogue, et puis également d'être capable, parce que dans certains cas, si nous avons des universitaires qui vont écrire les livres, non pas de se mettre au niveau du public, c'est pas la question, c'est au contraire d'apporter peut-être une lecture qu'on pourrait qualifier de savante, mais de la rendre accessible, c'est-à-dire de ne pas se perdre dans le jargon et de ne pas théoriser inutilement. La théorie n'est pas interdite, mais la théorie doit servir à comprendre mieux le film, si elle sert à quelque chose, mais surtout pas à l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des théories qui sont là et dont le film, finalement, ne servirait que comme exemple possible de la théorie en question.
Oui, c'est le film qui dirige l'étude et pas l'inverse.
Exactement.
Voilà. Et dans les premiers titres publiés là, que j'ai pu lire, donc, il y a eu, tu l'as dit, hein, ceux qui sont sortis en septembre 2017, et le livre de Jean-Loup Bourget. Alors, qui est un critique de cinéma assez prolifique, hein, qui est un auteur prolifique parce que ça fait... je lis des livres de Bourget depuis de longues années. Hein, il a publié de nombreux ouvrages. Et il s'intéresse au Rebecca Hitchcock en développant une thèse sur le fait que le film en lui-même ne serait pas qu'une création, même s'il développe des thèmes fort hitchcockiens, mais pas à 100% une création d'Hitchcock. C'est ça qui est intéressant dans l'ouvrage, je trouve.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a... en partie en utilisant autre chose que le film, c'est-à-dire en utilisant notamment le matériel publicitaire qui offre une hiérarchisation des noms différentes, en plus selon les affiches, selon les publicités utilisées, des noms, c'est-à-dire Selznick d'un côté, le producteur, Hitchcock bien entendu, et puis Dumouriez. Il base sur ça un certain nombre d'éléments comme ça pour remettre en perspective le fait que, non pas que ce soit pas un film Hitchcock, comme certains l'ont prétendu hein, dans le passé, où on dit que finalement, voilà, il n'y avait pas vraiment grand-chose d'Hitchcockien dans ce film-là, mais pour montrer quelque chose qu'en réalité on retrouve avec des dosages divers dans la plupart des films, à savoir que c'est une œuvre collective, et que là, effectivement, Hitchcock, même s'il a participé au scénario, ce qui était quand même, on le sait, en 1940, assez rare qu'un réalisateur participe à l'écriture du scénario de son film. Malgré tout, le scénario a été d'abord refusé par Selznick, a été repris, suggéré, et on sait que Selznick a brevé Hitchcock et tous ses collaborateurs de mémo. C'est-à-dire que Rebecca, effectivement, c'est quelque chose, une sorte de créature à trois têtes. Avec l'auteur du roman, le producteur et le réalisateur qui, finalement, en interagissant, bien entendu surtout Selznick et Hitchcock, ont réussi sans doute à tirer vers le haut ce projet d'adaptation.
Récemment, justement, sur cette période de relation de Hitchcock qui arrive aux États-Unis sous la coupe de Selznick, hein, c'est sur cette relation Hitchcock-Selznick, est sorti un coffret Carlotta, et toi, tu as rédigé un texte que je trouve assez pertinent sur les enchaînés, parce que tu t'attardes sur le travail d'adaptation, d'écriture du scénario, son rendu à l'écran, mais après tu développes quelque chose d'assez inédit en fait sur Hitchcock, c'est le rôle des objets dans son cinéma, comment il les utilise pour accompagner la narration, voire même quand il les met en scène, transcender la narration. Pourquoi ce choix ? Parce que on parle rarement de l'utilisation des objets chez Hitchcock, pourtant qu'ils sont importants. Il y a qu'à voir, Le crime était presque parfait aussi.
Oui, tout à fait. En écrivant l'article, j'étais parti de l'idée d'analyser le scénario, les deux versions du scénario, du moins auxquelles j'ai eu accès, et puis d'essayer de voir ce qu'il y avait d'intéressant à dire, d'une confrontation avec le film terminé. Alors, il y a eu déjà des choses sur la question, c'est un peu la difficulté. Au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'effectivement, le travail sur les objets était extrêmement intéressant dans la mesure où, d'abord, si l'on compare le découpage des scénarios et le film, on s'aperçoit qu'il y a énormément... Il y a beaucoup plus de gros plans dans le film qu'il y en avait de prévus dans le scénario. Ce qui veut dire aussi, par ailleurs, ce que Hitchcock improvisait sur le tournage. C'est-à-dire que tout n'était pas écrit comme il a souvent dit. C'était écrit, bien sûr, il y a le scénario, respectait le scénario. Malgré tout, il s'accordait une grande marge de manœuvre pour s'adapter. Et en l'occurrence, son travail d'adaptation par le biais des objets, ça veut dire par le biais de gros plans sur les objets, par leur disposition dans le cadre, au premier plan, par exemple, fait que... J'ai pas fait expérience, pour être honnête, mais je pense qu'on pourrait la faire, regarder certaines scènes et comprendre tout à fait le sens de la scène sans se passer du travail de la bande sonore. Parce que les objets traduisent les relations entre les personnages, leur place traduit les relations entre les personnages, parfois leur manipulation également. Et c'est assez frappant, bien entendu, comme tu disais, il y a d'autres exemples en dehors des enchaînés. Et même dans un film comme La maison du docteur Edwards, que Hitchcock avait fait avant Les Enchaînés, il y a un très bon exemple d'utilisation d'objets donne du poids à une scène de suicide, ce qui est d'autant plus un poids très, très visuel, très très fort, ce qui est d'autant plus osé, j'allais dire, qu'évidemment, bien entendu, dans le cinéma classique hollywoodien, il était normalement très souvent impossible que le méchant se suicide. Le code de production interdisait normalement au méchant de mettre fin lui-même à ses jours. Il fallait qu'il y ait une justice extérieure. Donc là, par la fameuse main du personnage qui se retourne, qui vise d'abord Ingrid Bergman, qui ensuite se retourne vers la caméra et qui tire vers la caméra avec quelques images teintées en couleur. Tout ça, c'est très fort. Ça dramatise de manière... très spectaculaire, quelque chose qui relève normalement de l'interdit. Et Hitchcock, on le sait, aimait bien jouer en plus avec les interdits hollywoodiens. C'est le cas dans Les Enchaînés, par ailleurs.
vous écoutez Franck Laffont, directeur de la collection Contrechamps pour les éditions Vendémiaire, au micro de Culture Prohibée.
Je passe un peu du coq à l'âne, mais je passe à l'autre livre de la collection. Je sors d'Hitchcock.
Oui.
Voilà, parce qu'on pourrait discuter longtemps sur Hitchcock. Puis je te sens intarissable à t'arbosser la question. Pour aborder le bouquin Fantomas de Louis Feuillade, donc par Benjamin Thomas. Alors là, qui est un peu, moi qui aime bien les céréales de Louis Feuillade, c'est un peu le bouquin qu'on attendait quand même sur Feuillade. Parce que c'est un bouquin en fait, d'analyse de sa mise en scène, quoi, qui est quand même très novatrice en fin de compte.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les deux optiques, celle de Jean-Loup Bourget et celle de Benjamin Thomas, sont très différentes, mais toutes les deux, il me semble, aussi passionnantes l'une que l'autre. Et Benjamin a une approche souvent plus esthétique, et pour ce livre-là, vraiment, il est parti d'un détail assez insignifiant, qu'on pourrait totalement occulter, même à une vision du film. C'est-à-dire qu'il part d'une, ce qui semble être une erreur de continuité. Du film, d'objets, en l'occurrence une chaise qui se déplace, pas toute seule à l'écran, mais qui, lorsqu'on revient dans le même décor, a changé de place, sans aucune raison. Et en partant de là, effectivement, il élabore, il échafaude une théorie sur l'espace dans le film, et qui permet également d'enrichir le portrait qu'on dresse du personnage de Fantomas lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas gratuit, ça permet de montrer à quel point c'est un maître de l'espace et à quel point il tire en part son pouvoir de sa maîtrise des lieux. Ce qui est assez novateur en fait comme approche. Et ça permet de bien comprendre effectivement que Feuillade n'était pas aussi primitif qu'on veut bien le penser parfois, qu'on veut bien le dire. En rappelant, bien entendu, en plus que Feuillade a été c'était un de ces réalisateurs de feuilletons qui ont été totalement dépréciés par une certaine critique et qui n'ont finalement connu qu'une reconnaissance en dehors de celle du public qu'assez tardive.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est sans cesse réévalué le travail de Feuillade. Ouais. On sent que tu as envie de défendre tes auteurs et les deux livres, hein, on sent que tu les aimes beaucoup, que tu es un directeur de collection impliqué. Est-ce que tu peux nous révéler les prochains titres, quoi, voilà, ce qui se profile dans la collection Contrechamps dans les mois à venir?
Alors, je peux pas tout dire. Ce que je peux annoncer, le prochain, qui est un film plus contemporain que l'était Rebecca et Fantomas. Contemporain chronologiquement uniquement, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'à mes yeux un film de 1940 soit ancien ou soit démodé mais le prochain c'est fait un film qui date début des années 2000 si ma mémoire est bonne, c'est Virgin Suicides. Qui va sortir normalement en mois d'avril, et ensuite nous aurons du cinéma français des années 30, nous aurons normalement du cinéma de genre italien. Nous aurons d'autres choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choses de prévues. Hein. C'est une collection qui va s'enrichir petit à petit avec des choses assez... avec des films qui sont peu étudiés en France parfois, comme le film italien que j'ai fait allusion à l'instant. On se pose pas de bornes, disons. Dire qu'on n'est ni temporel, ni géographique. Dès lors que le film nous intéresse, et qu'on pense qu'il va intéresser les autres, bien entendu, on peut accepter le projet.
On va un peu s'éloigner des livres cinéma, et puis on va écouter maintenant quelques chroniques consacrées à deux BD. Le Roi des Ribauds de Vincent Brujas et Roland Toulois, qui est disponible chez Aquileos, et Hate, Chronique de la haine d'Adrian Smith, qui est disponible chez Glénat. Et pour ça, on va tout de suite écouter notre ami William Blanc. Je sais qu'il y a une BD médiévale qui te scie à merveille, qui est signée Vincent Brugias et Ronan Touloa, si je le dis bien, qui est paru chez Aquileos, c'est Le Roi des Ribauds.
Ouais, deux tomes déjà parus en 2015-2016, et le troisième est pareil, là, au début, fin 2017, hein, donc on est au cœur de l'actu hein, par rapport à cette BD. Moi, c'est une BD que j'aime beaucoup. Alors attention, hein, évidemment, c'est une BD extrêmement sombre qui se passe à Paris à la fin du 12e siècle, au moment du règne de Philippe Auguste. Mais je vous arrête tout de suite, hein, la BD n'a pas pour but de représenter le vrai Moyen-Âge. Hein, le vrai Moyen-Âge, c'était évidemment une époque qui pouvait être difficile. Mais là, en fait, quand on regarde bien la BD, qui a un format comics, en fait, hein, c'est pas une grande BD franco-belge hein, avec un format assez large. Là, c'est une BD avec un format plutôt comics. Et quand on regarde bien cette BD, tout bêtement, les maisons de Paris sont extrêmement hautes et tout. Il y a des dédales de rues impossibles. La ville est gigantesque. Et la référence, évidemment, des deux auteurs, c'est évidemment la ville du Chevalier Noir. Le Chevalier Noir étant évidemment le Dark Knight, hein, Batman. Et d'ailleurs, il y a même dans une case, il y a une des personnages principales qui est en train de faire une espèce de tisser en fait une espèce de broderie et sur lequel il y a à la fois Batman et le Joker. Donc il y a quand même un clin d'œil extrêmement fort à DC Comics et donc au super-héros urbain dans Le Roi des Ribauds. Et Le Roi des Ribauds, ça raconte quoi? Tout bêtement, ça raconte un agent secret hein, qui travaille pour protéger le roi et les intérêts du royaume et pour protéger aussi la ville contre les divers complots qui menacent le roi. Et ce qui est intéressant, c'est que Le Roi des Ribauds, le héros central, il contrôle la pègre de la ville. Donc on voit en fait que c'est pas du tout l'image positive des rois de France, extrêmement sympas, extrêmement héroïques, mais c'est au contraire les rois de France qui trempent dans des magouilles pas possibles. Moi j'aime beaucoup, c'est une atmosphère extrêmement sombre, il pleut constamment dans cette BD, les teintes sont extrêmement dures, quand le sang gicle à bouillon, à flot complet, et c'est cool. Ça ressemble aussi un petit peu à Sin City de Frank Miller. Moi, j'aime bien. Ou aussi à Magnolia dans Hellboy. Hein, donc, on pourrait aussi faire cette référence. Hein. J'aime beaucoup, c'est rythmé. J'ai dévoré cette BD. Donc, encore une fois, jetez-vous dessus à pleines dents.
Everyone will tell you there's no place to hide. There's no laws or rules to enchain your life. But the ones who can make it, the ones who can take it, so glad you made it alive. Loves the fun, everyone comes by. In the wind I crunch, I want to die. They can give me pures, or let me drink my fear. The heart wants to explode far away. When nobody knows, do you believe she said that? Do you believe she said that? I said I hate myself and I want to die. Is innocent, the other half is wise. The whole damn thing makes no sense. I wish I could tell you a lie.
she said that. Can you believe she repeated that I said? I hate me myself, and I said I hate myself, and I won't do that.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial bouquin. Mon cher William, tout le monde sait que ce qui nous unit et ce qui explique ta présence dans notre émission, c'est la haine. Donc, j'ai envie que tu me parles d'une BD publiée par Glénat qui s'appelle Hate, voilà, hein, donc la haine. Une BD d'Adrian Smith. Vas-y donc, mon cher William, que je hais, car entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement.
N'est-ce pas? Alors, Adrian Smith, en fait, déjà, c'est une BD de dark fantasy. La dark fantasy, c'est quoi? Vous voyez Tolkien, c'est exactement l'inverse, en fait. Hein. Tolkien, c'est les gentils finissent par gagner et tout. Hein. J'aime beaucoup Tolkien, hein, je précise tout de suite. Hein. Les gentils finissent par gagner, l'espoir revient et tout. La dark fantasy, c'est exactement le contraire. C'est que, de toute façon, le mal finit toujours par gagner. C'est vraiment. La dark fantasy se complaît à représenter la violence. Quelque part, la Dark Fantasy, le début de la Dark Fantasy, c'est un peu Conan. Hein. Mais on retrouve ça aussi dans Elric, hein, par exemple, hein, Elric le Nécromancien. Je dis ça parce que donc Adrian Smith, lui, à l'origine, c'est plutôt un illustrateur. Il a beaucoup illustré de jeux de rôle, notamment des jeux de rôle de Dark Fantasy, comme Warhammer, hein, si vous connaissez un petit peu, notamment aussi les versions de Wargame en figurine Warhammer. Donc c'est une imagerie extrêmement chargée, extrêmement baroque, extrêmement sombre, extrêmement sanglante. Et là, il a décidé de faire une BD, qui est une BD très longue, qui est une BD en fait où il n'y a pas beaucoup d'images par page, mais c'est plutôt généralement des grandes images qui regroupent les pages, et où il n'y a quasiment aucun dialogue. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça commence, d'ailleurs, quand j'en ai parlé avec lui, quand je suis allé l'interviewer, en fait, Adrian Smith m'a dit, en fait, sa principale aspiration, c'est Tolkien, en fait. Hein. Ça raconte l'histoire d'un petit personnage, hein, donc qui ressemble un petit peu à un Hobbit, qui commence sa carrière ou son aventure dans une ville tentaculaire, hein, qui est dirigée par un personnage extrêmement sympathique et souriant qui s'appelle le Tyran. Voilà, ça commence bien. Et ça ressemble un peu à Mad Max, hein, notamment au dernier Mad Max, Fury Road. Hein. Et en fait, il fuit cette ville et puis il tombe dans la nature, il tombe sur la mère nature. Mais en fait, le problème, c'est que d'un côté ou de l'autre, il y a de la violence, il y a de la haine, et évidemment, ça ne finit pas très bien. J'aime beaucoup parce qu'on se laisse porter dans ce récit uniquement par l'image, il n'y a quasiment aucun dialogue, tout passe par l'image, une image qui est surchargée, mais qui est en même temps d'une beauté époustouflante. J'ai eu la chance de voir d'ailleurs une partie des images d'Adrian en exposition, où il mettait justement ses originaux, et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Le comic book est super. Il y a aussi beaucoup de références à Philippe Bruyère, hein, qui est un des grands auteurs de la BD française, notamment la BD de SF Fantasy. Hein. Et aussi, plus étonnamment, mais quand on regarde bien, on le retrouve à Gustave Doré, en fait, hein, que Adrian Smith adore absolument, qu'il prend pour un de ses modèles. Donc c'est une BD à lire qui est vraiment détonnante, déroutante par rapport à ce qui peut être proposé, notamment en BD franco-belge où on est toujours un petit peu posé. Là, au contraire, on se laisse complètement emporter par un flot de haine, quoi. Et c'est cool.
Après la bande dessinée, retournons vers le cinéma et nous allons de nouveau échanger autour encore d'une nouvelle collection. Une nouvelle collection qui est cette fois-ci lancée par l'éditeur Playlist Society, c'est la collection Phase B. Alors Phase B, c'est une collection qui propose des livres d'entretien. Et le premier s'intitule Frédéric Wiseman à l'écoute. Alors, c'est un livre qui est signé Laura Freducci, Quentin Mével et Séverine Rocabois. Alors c'est un livre qui débute par un essai, un tout petit essai, hein, et puis ensuite qui s'attache à travers un long entretien à analyser la méthode de travail d'un des plus célèbres, hein, documentaristes de l'histoire du cinéma, en tout cas
certainement avec Raymond Depardon en France, le documentariste le plus renommé, le plus connu. Hein. Il y en a d'autres, hein, mais ces deux-là sont quand même, jouissent quand même d'une réputation assez incroyable. Alors, ces échanges différents avec Wiseman permettent de saisir en quoi le fond, pour Wiseman, c'est également la forme. Et ça, c'est très intéressant. Il explique comment, donc, à travers sa mise en scène, il construit son regard très personnel sur la société. C'est vraiment un cinéaste, un documentariste, mais qui a un vrai regard de metteur en scène, voilà, qui construit ses films d'une manière très particulière. Et on peut considérer que c'est un sociologue de l'image, hein, quelque part. Hein. Et d'ailleurs, il a construit, de toute façon, une filmographie qui décortique, hein, les rouages du monde dans lequel nous vivons. Alors, parfois implacable, hein, toujours très juste. Moi, mon seul défaut par rapport à Wiseman, c'est que je dirais qu'il lui manque parfois la petite pointe d'humanité qu'on trouve chez Depardon. Mais en tout cas, le travail de Wiseman, son œuvre, hein, semble décliner à l'infini les vers de Louis Aragon. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Alors, Frédéric Wiseman à l'écoute, donc c'est une invitation à découvrir un réalisateur définitivement singulier. Et c'est donc un joli petit livre orange, hein, voilà, qui est paru chez Playlist Society et qui s'appelle « Frédéric Wiseman à l'écoute » de Laura Freducci, Quentin Mével et Séverine Rocabois dans la collection Face B. Écoutez Culture Prohibée. Toujours chez Playlist Society, le dernier livre de notre sélection s'attarde sur un cinéaste qui divise, y compris dans la rédaction de Culture Prohibée, J.J. Abrams. Alors, ceux qui connaissent mon travail savent que parfois j'ai même été très méchant dans certaines revues avec J.J. Abrams, qui est un cinéaste que j'apprécie pas énormément. Ben justement, mais moi je suis toujours prêt à faire des efforts, hein, voilà. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait ce livre, donc J.J. Abrams ou l'Éternel Recommencement d'Erwan Desbois qui sortait chez Playlist Society, ben je me suis dit je vais le lire quand même. Peut-être que Erwan Desbois va réussir à me donner envie de me replonger dans l'œuvre de J.J. Abrams. Alors, c'est un boulot qui est quand même assez impressionnant parce que Erwan Desbois décortique quand même l'œuvre du créateur d'Alias, de Lost et de Fringe hein, de manière très méthodique, à la manière un peu d'un chirurgien. Là, il va à fond. Hein. C'est vraiment parfois, peut-être même trop d'ailleurs. Je trouve que parfois, il extrapole peut-être. Voilà, moi, je pense que c'est un débat. Mais il le fait avec beaucoup de talent. Hein. L'analyse est faite avec beaucoup de talent. Et il fait apparaître des liens thématiques indéniables entre les différentes créations d'Abrams. Malgré tout, il faut reconnaître qu'effectivement, il met en avant la sincérité d'Abrams. Hein. Mais moi, je trouve que, OK, Abrams sincère, OK, Abrams humaniste, je veux bien. Mais bon, quand je vois son adaptation très déshumanisée, sa limite trahison de Star Trek, j'ai un peu du mal à saisir où est la sincérité d'Abrams. Alors, concernant le ratage hein, de la première heure du réveil de la Force, alors Desbois évoque, non sans panache hein, d'ailleurs, Rashomon d'Akira Kurosawa. Moi, je pense que cette interprétation peut également prêter à débat. Voilà, mais bon, le fait est que, de toute façon, les fans d'Abraham se sont déjà jetés sur le livre hein, à l'heure où l'émission est diffusée, parce que c'est un des rares livres qui prend la peine de réellement analyser le travail d'Abraham, même si moi, j'aurais aimé que le livre aille au-delà et que le livre, permette aussi de se rendre compte de l'implication des gens qui bossent avec lui. Abraham ne bosse pas tout seul, il bosse toujours avec une team, il bosse avec des script doctors, il n'est pas tout seul. Et là, quand je lis le livre, j'ai un peu l'impression que c'est lui le big boss, quoi. Voilà. Et je ne partage pas forcément cet avis, même si visiblement, par contre, sur les derniers Star Wars, il a repris les choses en main. Mais bon, on ne sait pas encore ce que va donner le 9e. Hein, visiblement, parce qu'il repasse derrière la caméra pour faire ce dernier Star Wars. Alors, n'en demeure pas moins que le livre m'a donné envie de revoir quelques titres d'Abrams. Hein. Je parle là particulièrement, par exemple, de Super 8, hein, qui m'avait déçu lors de sa sortie. On en avait longuement parlé dans l'émission. Donc, en cela, pour moi, déjà, le livre réussit une de ses premières missions, c'est-à-dire me donner envie de revoir un film d'Abrams. C'était pas gagné. Mais bon, après, il faut que je passe à l'acte. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais un beau boulot, en tout cas. Et pour ceux qui aiment Abrams, ils vont trouver leur compte dans le livre. Et nous, on avait rencontré, notre ami Jean-Michel Montanari hein, avait rencontré J.J. Abrams lors de la sortie de Super 8. Alors, on va conclure cette émission en réécoutant quelques-uns des échanges qu'avait eu J.J. Abrams avec une salle conquise hein, lors de la sortie de Super 8. Voilà, donc c'est J.J. Abrams au micro de Culture Prohibée.
The answer to the question of combining intimacy with spectacle is something that I certainly don't think I achieved perfectly in anything I've done, but is always the ambition, which is to try and have a story that is small and relatable and emotional, often a love story. I love love stories. And to have that coexist with something that is insane and spectacular and maybe even otherworldly. So to me, that's always the challenge. How do you balance those things? And the answer, honestly, is partly the story structure, partly the casting, and then the magic of editorial. Because with all the planning in the world, you still find yourself in the editing room realizing how you screwed up. And so you rebalance things and just keep doing it. And it's just the big challenge always, that combination. It was true in Star Trek for sure, it was true in Super 8. It seems to always be, it's always something that I'm wrestling with and I keep trying to get better at it.
Ah voilà, la question était dans l'univers de J.J. Abrams. Souvent nous avons l'intimité, la famille, un petit peu comme Spielberg le disait notre camarade. Et comment en réalité arrive-t-on à équilibrer l'intimité et l'action spectaculaire, les effets spéciaux? Alors, J.J. dit d'abord merci à tous d'être ici aujourd'hui. C'est vrai que de mêler ce qui est du domaine de l'intime et au contraire ce qui est du domaine du spectacle, du divertissement, est vraiment mon ambition. Et j'avoue ne jamais avoir réussi parfaitement à le faire. En tout cas, c'est mon ambition première, c'est toujours de partir d'une histoire. Une histoire où il y a des relations auxquelles on peut s'attacher, il y a de l'émotion. Et surtout, surtout, parce que j'adore ça, ce sont les histoires d'amour. Et j'aime justement les faire coexister avec quelque chose qui serait dingue, quelque chose qui serait spectaculaire et quelque chose qui peut-être viendrait de l'au-delà. Et à chaque fois, c'est le défi majeur, cet équilibre que vous soulignez. Alors, si je dois vous donner une réponse honnête, eh bien, ce qui m'aide à justement trouver un juste équilibre, eh bien, c'est évidemment la structure du film, la structure narrative. Et puis évidemment, il y a le casting, les acteurs, et puis finalement, la magie du montage. Car quels que soient les plans qu'on a fait pendant le tournage, eh bien, lorsqu'on arrive dans la salle de montage, on se rend compte à quel point on a foiré certains trucs et à quel point on a besoin justement de travailler, de rééquilibrer cela et de trouver une juste place. Donc c'est toujours le grand défi, c'était certainement mon défi dans Star Trek, c'est certainement mon défi dans Super 8 et c'est toujours quelque chose que j'essaie de justement, j'essaie toujours de combattre et d'arriver à ce juste équilibre.
Steven Spielberg is someone who was a hero of mine as a child, is still very much a hero. I feel like I learned from him long before I met him, and was really privileged to, you know, but honored to work with him collaboratively on this. I don't know what the biopic would be, but I feel like getting to know him personally has simply confirmed what I believed going in, which is that he, like his films, is someone who sees the best in situations, who's ultimately an optimist, who sees the world as full of possibility, and who is incredibly entertaining as a, not just a storyteller, but as a human being. And so, the problem is a really good biopic needs something ugly in it. Need some kind of, like, you know, controversy or something. You know, the thing about Steven is he's a really good person, and so I feel like, ironically, the biopic, you know, might not have the elements that he would require to agree to direct the film. You know what I'm saying? But thank you again for your support.
Alors évidemment, merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur les années 70-80 et cette mine d'or que c'était. Voilà, la question était, est-ce qu'un jour, JJ réaliserait un biopic de Spielberg? Alors évidemment, Spielberg, dit JJ, bien, c'était mon héros quand j'étais jeune et c'est encore mon héros aujourd'hui, car j'ai le sentiment très net que j'ai beaucoup appris de lui bien avant de le rencontrer. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance, l'honneur de travailler avec lui et de collaborer avec lui. Et c'est vrai que l'idée d'un biopic, eh bien, maintenant que j'ai appris à le connaître personnellement, je dirais, eh bien, ça a confirmé d'abord ce que je pensais de lui. Il est comme ses films, c'est-à-dire qu'il a un optimisme incroyable. Il voit dans chaque chose une opportunité. Et le monde, pour lui, est un monde de possibilités sans arrêt offertes. Et dans la vie, c'est quelqu'un en plus de très drôle, non seulement évidemment en tant que conteur, mais aussi en tant que personne. Et je crois justement que le problème, c'est que lorsque l'on fait un biopic, eh bien, on a besoin d'un truc qui soit un peu moche. On a besoin de problèmes, de controverses. Or, vraiment, Steven est un mec vraiment bien. C'est une personne qui est vraiment bien. Donc, ironiquement, je crois que je ne pourrais pas filmer son biopic parce que lui-même trouverait que cet élément un peu de controverse eh bien, manquerait lui-même. Not true.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée par William Blanc, dit le Chevalier Blanc, Jean-Michel Montanari, dit Oh My Gorman, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Strawberry.